Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La lettre à Ménécée est un court traité épistolaire d'Épicure, philosophe grec des 4e et 3e siècles avant notre ère. Conservée avec quelques autres textes majeurs de l'auteur, elle condense son enseignement éthique sous la forme d'une adresse à un disciple. Son objet n'est pas de proposer une théorie abstraite du bonheur, mais d'indiquer les conditions d'une vie libérée des troubles inutiles. Épicure y défend le plaisir comme principe de la vie heureuse, tout en refusant l'excès, la recherche illimitée des biens et la confusion entre plaisir et débauche. La lettre examine notamment la crainte des dieux, la peur de la mort, le rôle de la prudence et la hiérarchie des désirs. Sa brièveté ne doit pas masquer sa rigueur, les thèses morales reposent sur une conception matérialiste de la nature et sur une observation des conséquences pratiques de nos croyances. Le texte demeure une introduction directe et structurée à l'éthique épicurienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le plaisir désigne une absence de trouble plutôt qu'une accumulation de jouissances. La thèse centrale de la lettre à Ménécée est que le plaisir constitue le principe et la fin de la vie heureuse. Cette formule a souvent conduit à réduire Épicure à l'apologie des satisfactions immédiates. Or, le texte défend une conception beaucoup plus sobre. Le plaisir accompli correspond à l'absence de douleur du corps et de troubles de l'âme. Il ne s'agit donc pas d'augmenter sans limite les stimulations, mais d'atteindre une stabilité dans laquelle aucun manque pressant ne vient dominer l'existence. Cette définition modifie le calcul pratique. Un plaisir peut être refusé s'il prépare une souffrance plus grande, tandis qu'une peine peut être acceptée si elle procure ensuite un bien durable. Épicure ne demande pas de fuir toute difficulté, mais de comparer lucidement les conséquences des choix. La vie agréable exige ainsi une discipline du jugement. Les festins, le luxe ou l'excitation ne sont pas condamnés en eux-mêmes, ils ne sont simplement pas nécessaires à la sérénité. En faisant du plaisir un état de suffisance plutôt qu'une course aux intensités, la lettre associe bonheur, modération et indépendance à l'égard des circonstances extérieures. Deuxièmement, la classification des désirs fournit une règle concrète de discernement. Épicure distingue les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels mais non nécessaires et les désirs vains. Cette classification donne à son éthique une portée très concrète, car elle permet d'examiner chaque aspiration selon son origine, son coût et son effet sur la tranquillité. Les désirs naturels et nécessaires concernent notamment la subsistance, la sécurité du corps et la paix de l'âme. Ils sont faciles à satisfaire lorsque l'on se contente de ce qui suffit. Les désirs naturels mais non nécessaires peuvent enrichir l'expérience. Sans être indispensables, leur satisfaction ne doit pas devenir une dépendance. Les désirs vains, tels que la recherche illimitée de richesses, de prestige ou de pouvoir, n'ont pas de limites internes claires. Plus ils sont poursuivis, plus ils risquent de produire inquiétude, rivalité et frustration. Le critère épicurien N est donc ni le renoncement systématique ni la morale de l'interdiction. Il consiste à identifier ce qui procure une sécurité réelle et ce qui entretient artificiellement le manque. Cette analyse rend possible une forme d'autosuffisance. Celui qui sait apprécier les biens simples est moins vulnérable aux revers de fortune et aux promesses sociales de distinction. Troisièmement, la suppression de la peur des dieux et de la mort vise la paix de l'âme. Une part décisive de la lettre cherche à dissiper les croyances qui troublent inutilement les êtres humains. Épicure ne présente pas les dieux comme des puissances à craindre, punissant ou récompensant continuellement les actes humains. S'ils existent, leur nature bienheureuse les place hors des passions et des interventions arbitraires. La superstition devient alors une source de servitude psychologique plutôt qu'un fondement de la morale. La réflexion sur la mort suit une logique analogue. Puisque toute sensation suppose l'existence d'un sujet sensible, la mort ne peut être éprouvée par celui qui meurt. Tant que nous sommes là, la mort n'est pas là. Quand elle est là, nous ne sommes plus. L'argument ne nie ni le deuil ni l'instinct de conservation, mais il conteste l'angoisse d'une expérience future que personne ne peut vivre. Cette clarification est essentielle à l'ataraxie, terme qui désigne l'absence de trouble de l'âme. Libéré de la peur d'un châtiment divin et de la hantise d'un état postérieur à sa propre existence, l'individu peut concentrer son attention sur les choix présents, les amitiés et les besoins réellement accessibles. Quatrièmement, la prudence relie le calcul des conséquences à une vie juste et stable, chez Épicure. La prudence est plus qu'une habileté à éviter les risques, elle est la faculté qui permet de choisir et de refuser les plaisirs avec discernement. Elle évalue les effets prévisibles d'une action au lieu de suivre chaque impulsion. Cette fonction explique pourquoi une philosophie du plaisir n'est pas une invitation à l'imprudence. Celui qui poursuit tout plaisir s'expose à la dépendance, à la douleur ou au conflit. Celui qui rejette toute peine peut abandonner des biens importants. La prudence établit donc une mesure entre ces deux erreurs. La lettre associe aussi cette sagesse à la justice, à la tempérance et au courage. Ces vertus ne sont pas des contraintes étrangères au bonheur, elles en sont les conditions pratiques. Une conduite injuste, par exemple, nourrit la crainte d'être découvert ou puni et empêche ainsi la tranquillité recherchée. De même, l'absence de maîtrise de soi laisse les désirs devenir tyranniques. Épicure refuse de séparer radicalement l'agréable et le vertueux. Une vie heureuse ne résulte pas d'un idéal moral abstrait, mais d'habitudes qui rendent l'existence plus sûre, plus paisible et moins exposée aux troubles évitables. En dernier lieu, Philosopher à tout âge transforme la doctrine en exercice quotidien, la lettre à Ménécée s'ouvre sur une injonction à philosopher sans attendre un âge particulier. La jeunesse n'est pas trop précoce pour réfléchir au bonheur et la vieillesse n'est pas trop tardive pour en recevoir les bienfaits. Cette idée définit la philosophie comme une pratique de soin de l'âme plutôt que comme une spécialité réservée aux savants. Il ne suffit toutefois pas de connaître les principes, ils doivent être médités et appliqués. Les enseignements sur la mort, les désirs et le plaisir ont pour fonction de modifier des réflexes de crainte et de comparaison sociale. La forme même de la lettre soutient cette orientation. Épicure ne développe pas un système exhaustif. Il rappelle des règles destinées à guider une conduite. La tradition résume souvent ce programme par le tétrapharmakos ou quadruple remède ne pas craindre les dieux, ne pas craindre la mort. Reconnaître que le bien est accessible et que le mal est supportable. Cette formule facilite la mémorisation, mais la lettre montre aussi que la sérénité exige observation de soi, examen des conséquences et répétition. Sa philosophie est donc pratique sans être simpliste, la clarté des principes ne dispense pas de l'effort nécessaire pour les incorporer à la vie. En conclusion, la lettre à Ménécée s'adresse à quiconque cherche une entrée concise, exigeante et accessible dans la philosophie morale antique. Elle convient particulièrement aux lecteurs qui souhaitent comprendre l'épicurisme au-delà de son image courante de doctrine hédoniste, ainsi qu'aux étudiants abordant les notions de bonheur, de désir, de mort et de vertu. Son bénéfice intellectuel principal est de proposer des distinctions opérationnelles, tous les plaisirs ne se valent pas, tous les désirs ne méritent pas d'être suivis. Et les peurs les plus influentes ne reposent pas toujours sur une expérience réelle. Elle peut aussi nourrir une réflexion pratique sur la sobriété, l'autonomie et la manière de hiérarchiser ses besoins, sans fournir de recettes psychologiques contemporaines, par rapport à de nombreux traités de sagesse. Ce texte se distingue par son extrême densité et par l'articulation nette entre une analyse des croyances et une éthique de la vie quotidienne. Le bonheur n'y dépend ni de la fortune, ni de la gloire, ni d'une ascèse punitive, mais d'une compréhension rationnelle de ce qui suffit au corps et à l'âme. La lettre conserve ainsi une force particulière en peu de pages, elle relie une théorie du plaisir à une méthode de libération des craintes et à un idéal de stabilité intérieure. Sa lecture gagne à être lente, car chaque principe demande moins une adhésion immédiate qu'un examen de ses conséquences dans l'existence. Si vous souhaitez soutenir Épicure, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.